ne sait pratiquement rien de lui. Le thème du livre, est-ce que vous vous rappelez le thème du livre? On avait commencé à regarder ce livre il y a un mois en arrière. Hein, donc, est-ce que vous vous rappelez le thème central du livre? La reconstruction du temple. Hein. Et le contexte historique de ce livre, eh bien, c'est le peuple qui retourne de la captivité. Donc, on est à peu près en 520 avant Jésus-Christ. Et puis, ils sont retournés donc en 536. Ils ont commencé à reconstruire les fondations. Et puis, au bout de 2 ans, les fondations étaient terminées. Ils ont honoré Dieu pour cela. Et puis, à partir de 2 ans, ils ont connu des difficultés et ils étaient obligés d'arrêter. Hein. Il y avait même une interdiction politique pour arrêter la reconstruction du temple que Dieu avait ordonné de construire, pour laquelle Dieu les avait envoyés à Jérusalem. Et donc, 16 ans se sont écoulés comme cela, sans que les travaux n'avancent. Et donc, c'est dans ce contexte que Dieu envoie Zacharie, et puis aussi Agée, pour parler au peuple. Donc, nous avons dit qu'il y a 4 grands oracles, 4 messages dans ce livre. Donc, on était dans le premier message ici, d'Agée, qui va du chapitre, tout le chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 15. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le prétexte que le peuple avait pris pour ne pas construire, pour ne pas continuer à construire la maison de Dieu. Et c'était le fameux « pas encore le temps ». Le temps n'est pas encore venu. Et c'est Dieu lui-même qui dit que c'est l'argument que le peuple utilise en disant « le temps n'est pas encore venu de bâtir la maison de l'Éternel ». Et on voit bien que Dieu reproche au peuple cette liberté qu'il prend en décidant lui-même que ça n'était pas le temps et que le problème était celui de leur orgueil. La raison véritable, c'était l'orgueil. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter à un appel que Dieu fait au peuple et qui revient plusieurs fois dans tout petit livre, il n'y a que 2 chapitres, tout petit livre d'Agée. C'est l'expression « considérez attentivement vos voies ». Si vous regardez bien, vous allez voir que cela apparaît au chapitre 1 et au verset 5 déjà, au chapitre 1 verset 7 aussi, « considérez attentivement vos voies ». Et puis au chapitre 2 et au verset 15, alors il n'y a pas « vos voies », mais il y a « considérez attentivement ». Et puis aussi au verset 18, je crois. Donc, quatre fois, je pense. Voilà, 4 fois. Chapitre 2 et au verset 15, et chapitre 2 et aussi au verset 18. Considérez attentivement. Donc, c'est un appel que Dieu fait au peuple ici à considérer, à réfléchir sur sa situation. Qu'est-ce que ça veut dire de considérer sa voie? Le sens exact du mot, c'est de mettre son cœur sur. C'est-à-dire, mettez votre cœur sur votre voie. C'est-à-dire, appliquez-vous à réfléchir à la manière avec laquelle vous marchez. Dit le peuple. C'est ce qu'il dit au peuple. Il dit, attention, il se passe quelque chose, réfléchissez. Mettez votre cœur à saisir comment vous comportez. Quelle est votre marche? Et je vous propose ce soir de voir quatre choses que le Seigneur Dieu les appelle à considérer. La première chose ici, je la résume comme cela, ils appellent à considérer leurs espérances déçues. Si vous regardez le chapitre 1, on va lire donc le verset à partir du verset 5. Il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Puis au verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Donc, si vous regardez un petit peu cela, il y a un contraste hein, que Dieu établit ici. Il dit, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Il dit, vous mangez, et puis de l'autre côté, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, et vous n'avez pas chaud. Votre salaire, vous l'avez, mais hop, ça disparaît. Et puis il dit, vous comptez sur beaucoup, vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. Donc il y a un contraste ici qui est établi et qui montre que ce que l'on attend hein, quand on sème beaucoup, c'est de recueillir beaucoup. Ce que l'on attend quand on mange, c'est d'être rassasié. Ce que l'on attend quand on boit, c'est d'être désaltéré. Ce que l'on attend quand on s'habille, c'est d'avoir chaud. Et donc ce que vous visez à travers ce que vous faites, vous ne l'obtenez pas. Donc ce sont un petit peu des espérances déçues. Vous comptez sur beaucoup et vous avez eu peu. Et Dieu est en train de leur dire, mais considérez cela. Vous avez fait des efforts pour atteindre certaines choses et vous ne les avez pas. Alors on pourrait dire, oui, bon, trouver différentes raisons pour lesquelles on n'a pas ces choses, mais la manière avec laquelle Dieu dit les choses ici, c'est pour attirer leur attention, leur dire, il y a une raison pour laquelle vous avez semé beaucoup et vous avez eu peu. Il y a une raison pour laquelle vous avez mangé et vous n'êtes pas rassasié. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu ce que vous espériez. Et il faut, en tant que peuple de Dieu, il dit, il faut réfléchir sur ces choses-là. Toutes les choses qu'ils ont faites ont été recherchées quand ils ont abandonné la construction de la maison de Dieu. Ils avaient dit que ce n'était pas encore le moment pour la maison de Dieu, et donc ils avaient utilisé leur temps, leur argent pour faire des choses, pour améliorer leur confort. Hein. On avait parlé la dernière fois de demeures lambrissées, ils habitent de belles maisons, ils plantent beaucoup, ils mangent, ils boivent, ils s'achètent des vêtements, mais tout cela au lieu de se focaliser sur l'œuvre de reconstruction du temple. Et donc, Dieu leur dit ici, considérez que toutes ces choses que vous avez faites, au lieu de construire la maison de Dieu, eh bien, vous n'avez pas obtenu de résultat, de succès dans toutes ces choses. Et ce que Dieu leur fait comprendre ici, ce dont il leur fait prendre conscience, c'est la chose suivante. C'est que ce que vous avez cherché à fuir en abandonnant Dieu, c'est ce qui vous a atteint. Parce qu'en fait, dans le fond, quand on sème beaucoup, c'est qu'on veut recueillir beaucoup. Mais pourquoi on veut recueillir beaucoup? C'est pour fuir la pauvreté, c'est pour fuir la faim, c'est pour fuir la disette, c'est pour fuir le froid. Et il dit que tout ce que vous étiez en train de fuir, tout ce que vous cherchez à fuir en investissant d'une certaine manière, c'est ce qui vous a atteint. C'est-à-dire, ce sur quoi il attire leur attention, c'est pas tant sur ce qu'ils n'ont pas eu. Ils sont pas rassasiés, ils ont eu peu, etc. Mais ce qu'ils cherchaient à fuir, c'est ce qui les a atteints. Si, pour bien expliquer ça, si vous pensez à Naomi et Elimelech et sa famille qui était à Bethléem. Et ils ont fui la famine. Mais pourquoi ils ont fui la famine? En fuyant la famine, ils ont cherché à fuir la mort. On est bien d'accord. Hein? In fine, c'est la mort que l'on fuit. C'est la famine, si elle n'amenait pas la mort, on n'aurait pas fui la famine. C'est parce que la famine conduit à la mort. Donc on fuit la mort. Mais quand ils sont arrivés à Moab, quand vous lisez en route, la première chose qu'ils trouvent, c'est la mort. L'une des premières choses. Ils vivent un petit peu, mais le texte est assez frappant parce qu'ils arrivent à Moab, ils s'installent, et puis Elimelech meurt, et ses deux fils meurent. D'accord. Et souvent, quand on se détourne de la volonté de Dieu, ce que l'on cherche à fuir, c'est ça qui peut nous atteindre. Et Dieu montre qu'il peut juger en nous faisant atteindre par cela même qu'on est en train de fuir lorsque nous nous détournons de lui. Et je pense que c'est une leçon ici qu'il apprend à ce peuple. Il dit, considérez vraiment vos espérances déçues. Vous avez cherché à fuir la disette, cherché à fuir la faim, cherché à être satisfait avec l'abondance et vous êtes insatisfait parce que vous avez mangé, vous n'êtes pas rassasié. Il dit même, vous avez mis de l'argent, vous avez mis des choses de côté, vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous avez ramené des choses, le peu que vous aviez, vous l'avez ramené chez vous. Il dit, j'ai soufflé dessus et il n'y avait plus rien. Donc, ils étaient insatisfaits. Ils ont cherché la satisfaction dans des choses, donc à fuir l'insatisfaction. Et cette insatisfaction les a quand même gagnés. Et ça, c'est, je pense, une leçon qui est importante pour nous. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et quand on cherche sans Dieu, eh bien, ce qu'on veut éviter, Dieu peut permettre souvent que ces choses-là nous atteignent. C'est une leçon importante pour le peuple de Dieu ici à cette époque-là. Et c'est aussi une leçon importante pour nous. Une deuxième chose que Dieu, je pense, les appelle à considérer ici, c'est la raison de leur insuccès ou de leur insatisfaction. Il dit, vous comptiez, verset 9, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Et Dieu les amène à réfléchir à la raison. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi vous n'avez pas eu ce que vous vouliez ? Pourquoi vos espérances ont été déçues ? Dit l'Éternel des armées. Il dit, à cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. La prospérité qui était attendue n'est pas au rendez-vous. Hein. L'épargne de précaution qui était prévue, hein, il dit vous avez ramené un peu chez vous, j'ai soufflé dessus, ça n'a pas été réalisé. Et Dieu les appelle à réfléchir au pourquoi de cette situation, à cause de ma maison qui est détruite. Et Dieu montre qu'il y a un lien entre l'insatisfaction ou l'insuccès qu'ils sont en train de vivre et leur désobéissance dans ce que Dieu leur avait confié. Dieu donne comme raison la désobéissance, leur manque d'intérêt pour les choses de Dieu, leur plein investissement dans leur confort personnel. Et se détourner de l'œuvre de Dieu engendre pauvreté et insatisfaction pour le peuple. Il en est de même pour nous, chrétiens, quand nous nous laissons préoccuper aussi par les affaires matérielles. On peut connaître l'insatisfaction. Et parfois, on est insatisfait et on cherche pourquoi on est insatisfait et on pense que c'est parce qu'il nous manque des choses et on va chercher encore à augmenter et à avoir plus de choses. Mais parfois, l'insatisfaction, elle est liée au fait qu'on se détourne de Dieu, qu'on ne cherche pas notre satisfaction en Dieu. Dieu nous a conçus de telle manière que rien ne puisse nous satisfaire. Il y a des gens, ils rêvent d'être mariés, et quand ils sont mariés, parfois ils ne sont pas satisfaits. Et puis il y a des gens mariés qui rêvent d'avoir des enfants, et parfois, quand ils en ont, eh bien, les enfants grandissent et puis parfois ne marchent pas avec le Seigneur. Et les gens disent, mais si c'est pour avoir des enfants comme ça, qui ne marchent pas avec Christ, il aurait mieux valu ne pas en avoir. Et tout ça, c'est parce que, eh bien, on ne peut pas être satisfait avec les situations, même quand on est marié ou quand on a des enfants ou autre. Dieu nous a conçus pour que ce soit lui seul qui puisse nous satisfaire. Et ce peuple qui se détourne de Dieu, il n'est pas satisfait. Vous vous rappelez de ce peuple d'Israël qui voulait de la viande, à qui Dieu a donné de la viande jusqu'à ce que ça leur saute par les narines. Et il dit qu'en même temps qu'il leur a envoyé la viande, il leur a envoyé le dépérissement. Ils avaient la viande dans la main, dans la bouche même. Et en même temps, leur âme était desséchée. En mangeant cette viande qu'ils avaient tant désirée, ils n'étaient pas satisfaits. Il est important pour l'enfant de Dieu de réfléchir à tout ce qui se passe dans sa vie. Le pourquoi doit se poser dans la vie du chrétien aussi. On ne doit pas vivre puis en disant oui, c'est une situation, c'est comme ça, mais quand il y a des choses
qui se passe, on doit toujours se poser la question, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un lien à établir quelque part, mais quand même, il faut se poser la question. Ce peuple ne se posait pas la question. Ils étaient insatisfaits. Ils n'étaient pas rassasiés, ils n'arrivaient pas à garder les choses. Ce qu'ils mettaient de côté dans le grenier, eh bien, peut-être que les bestioles mangeaient tout ça, c'était abîmé. Et on peut penser, oui, voilà, c'est à cause du chaud, du froid, de la saison, du lieu où on habite. Et Dieu dit non. Dieu dit, la raison, c'est parce que vous oubliez ma maison et que vous êtes tous préoccupés par votre propre confort et par votre propre maison. Donc Dieu montre au peuple qu'il y a un lien, une corrélation, une connexion entre aussi les événements climatiques et leur désobéissance. Donc un lien entre leur insatisfaction et leur désobéissance, mais aussi un lien entre les événements climatiques et leur désobéissance. Regardez au verset 11, il dit, verset 10, il dit, c'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur la terre, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Donc, Dieu dit, il y a une relation ici entre votre obéissance et le climat. Dieu avait dit à Moïse, vous vous rappelez dans Deutéronome chapitre 28, de dire au peuple quelles seront leurs bénédictions s'ils obéissaient à Dieu. Et s'ils n'obéissaient pas, quelles seraient leurs malédictions. Et au verset 15 du chapitre 28, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bon, il y a toute une liste, mais au verset 38, plus loin, on trouve ceci. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Vous avez semé beaucoup et vous avez récolté peu. Et Dieu dit, voilà, Moïse dit, voilà, il y a un lien, Dieu avait déjà dit qu'il y a un lien entre l'obéissance et les événements qui se passent dans la nature, même les événements climatiques. Donc c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et puis, il les appelle aussi à considérer donc la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Donc d'abord, à considérer leur insatisfaction, leurs espérances déçus, il les appelle deuxièmement, à considérer la raison de leur insuccès, c'est l'abandon de la maison, de la construction de la maison de Dieu, l'abandon des choses spirituelles, l'abandon de l'œuvre que Dieu leur avait confiée. Et puis troisièmement, il les appelle à considérer aussi la souveraineté de Dieu en toutes choses. Il dit, regardez au verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous aviez peu. Vous l'avez rentré et j'ai soufflé dessus. Et puis au verset 10, il dit, c'est pourquoi les cieux, verset 11, il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. C'est bien, Dieu dit, j'ai soufflé dessus et j'ai appelé la sécheresse sur le pays. L'homme moderne a une réponse moderne et scientifique à tout. C'est le manque d'argent. Si vous avez un manque d'argent, il dira, c'est parce que vous avez eu une mauvaise gestion. La sécheresse, par là, eh bien, ça c'est à cause du réchauffement climatique. Puis parfois, le cataclysme, par là, c'est le phénomène El Niño. Il y a toujours une raison scientifique à tout. Mais Dieu dit ici, c'est moi qui ai soufflé là-dessus. C'est moi qui ai appelé la sécheresse. C'est pas simplement, oui, c'est un phénomène climatique, si on veut. Mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Et c'est à cause de votre désobéissance que cela arrive. Il y a ici un lien. Et il dit, n'oubliez pas que je suis souverain sur toute chose. Et c'est vrai qu'on peut planter, on peut faire ce qu'on veut, on peut fouiller la terre, la remuer, bêcher comme on veut. Si Dieu dit qu'il ferme les robinets du ciel, il ferme les robinets du ciel. Et tout ce qu'on a planté, ça ne portera pas de fruits. Et donc, dans notre texte, Dieu lie la situation économique du pays à la désobéissance de son peuple. Et il indique qu'il est l'auteur de ce qui se passe. Et ça doit être quelque chose sur lequel le chrétien aussi doit réfléchir. Dieu est au contrôle de toute chose. Il est au contrôle de toute chose. Et la réflexion à laquelle Dieu appelle son peuple ici consiste vraiment à ne pas rattacher les difficultés qu'il connaît à des phénomènes climatiques aveugles, mais à voir Dieu agissant en souverain derrière toute chose. Le peuple ne doit pas oublier que Dieu commande toute chose. Et je trouve que les versets 10 et 11 à ce propos sont vraiment impressionnant. Il dit les cieux et la terre, c'est comme s'il disait, les cieux et la terre sont dans les mains de Dieu. Il arrête la rosée en haut et il ramène la sécheresse en bas. Après, il dit, vous allez faire quoi? Il contrôle vraiment toute chose. Et la nature entière lui obéit au droit et à l'œil. Il est en train de dire, vous auriez dû réfléchir à cela. Ce qu'il est en train, ce sur quoi il les amène à réfléchir, c'est pas simplement sur les phénomènes, mais c'est sur sa grandeur, sa souveraineté, sur toutes ces choses, le contrôle qu'il a sur toutes ces choses. Alors, il agit comme il veut. Regardez ici, il dit sur le blé, il dit, j'ai appelé la sécheresse surtout sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur le rendement même du sol, hein, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le fruit du travail des hommes. Il est capable d'agir sur tous ces éléments-là en même temps et comme il veut avec une pleine souveraineté. Je trouve que c'est à la fois encourageant et effrayant. C'est encourageant si on est comme un ennemi qui peut dire « La bonne main de l'Éternel a été sur moi. » Et en même temps, c'est effrayant si comme une Naomi, on dit « L'Éternel a étendu sa main contre moi. » Et donc, Dieu, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on vient se frotter à la souveraineté de Dieu. Soit pour notre bien, même quand il fait comme ça, c'est pour le bien du peuple, ou soit ça va être pour nous secouer, pour attirer un châtiment sur nous. Donc Dieu peut étendre sa main pour ouvrir la mer pour que son peuple passe, mais il peut aussi étendre la main pour châtier. Parce qu'il est souverain sur toute chose. Alors c'est à la fois encourageant et c'est à la fois effrayant. C'est encourageant parce que je trouve que cela nous dit qu'on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Parfois on pense qu'il faut faire des choses pour se prémunir contre ceci ou cela et on n'a pas besoin de faire cela. Parfois, on peut ne pas, comme ce peuple ici, utiliser l'argent pour le mettre au service de Dieu dans les offrandes, dans les dîmes, parce que la fin du mois sera trop difficile et on cherche à se prémunir contre la fin du mois. Eh bien, Dieu dit, tu veux te prémunir par toi-même? Eh bien, la fin du mois sera quand même difficile. Parce que Dieu est souverain sur toute chose. Avant de retenir pour servir Dieu, on doit compter sur la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, tout est à moi. Et il en fait ce qu'il veut. Donc on a beau faire des efforts pour semer, pour épargner, pour construire, rien n'est hors de la portée de Dieu. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré et voici j'ai soufflé dessus. Et donc Dieu peut tout faire sur tout ce que nous avons. Dieu peut faire que les vêtements et les souliers ne s'usent point, comme il a fait pour son peuple d'Israël. Il peut faire que l'huile dans le pot, dans la cruche, et que la farine dans le pot ne se termine point, comme il a fait pour la veuve de Sarepta. Mais il peut aussi tout faire disparaître en soufflant dessus. C'est ce qu'on apprend ici. Et donc, on doit faire confiance à Dieu. Et Dieu dit, vous auriez dû me faire confiance. parce qu'il est capable de préserver pendant la famine, il est capable de faire que les choses ne s'usent pas. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des situations où Dieu peut agir de la même manière. Hein. Vous avez des gens, ils achètent le matériel qu'ils achètent tombe en panne tout de suite, et puis le vôtre, qui est de la même marque, tient pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. Hein. Et puis c'est Dieu qui permet que cela tienne, parce que autrement, vous voulez servir le Seigneur d'une certaine manière. Donc il ne faut pas chercher forcément des connexions partout, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu peut agir encore aujourd'hui de la même manière. Il peut vous donner une automobile qui tienne les centaines de milliers de kilomètres. D'accord? Et puis vous ne voulez pas investir dans l'œuvre de Dieu, vous voulez avoir votre automobile toute neuve, elle tombe en panne tout de suite. Et puis dire, voilà. Il vous montre que avec un tel, il lui a permis de tenir même longtemps avec ce qu'il avait. Et avec un autre qui ne veut pas faire confiance, eh bien, il peut intervenir et souffler dessus. Alors, bien sûr, je ne dis pas que Dieu est tout le temps en train de... Dieu ne s'amuse pas. D'accord. Mais on doit comprendre qu'il est souverain. Et qu'on ne peut pas faire en dehors de lui des choses en pensant que, voilà, nous sommes les maîtres de notre vie. Il ne faut pas compter sur la force de son bras, sur sa capacité, sur sa gestion, sur son talent agricole, mais sur la souveraineté de Dieu qui peut changer, la Bible nous dit, le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et donc quand on se détourne du service de Dieu, quand on perd de vue sa puissance et sa souveraineté, eh bien on s'expose un peu comme le peuple, on peut s'exposer comme le peuple au châtiment. Et puis dernièrement, Dieu veut appeler le peuple à considérer sa volonté pour lui. Donc, considérer ses espérances perdues, considérer la raison de son insuccès de son insatisfaction, considérer la souveraineté de Dieu sur toute chose, et enfin considérer la volonté de Dieu pour le peuple. Regardez le verset 8, maintenant, il dit, verset 8, Agé chapitre 1, verset 8, il dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Donc, notez ici les impératifs que nous avons, « Montez, apportez, bâtissez et travaillez. » Travaillez, c'est au chapitre 2, au chapitre 2 et au verset 4, où Dieu dit « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, » dit l'Éternel, « Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. » Dieu veut un peuple qui travaille. Il dit, « Je vous ai envoyé ici pour construire le temple. » Et Dieu veut un peuple qui travaille. Il ne les a pas sortis de la captivité pour qu'ils puissent venir être et vivre à leur aise dans leur demeure lambrissée à Jérusalem. La raison pour laquelle il les a sortis, on le lit dans le livre d'Esdras, c'est pour construire le temple, pour construire la maison. Et donc il dit, il faut travailler. Dieu ne veut pas les paresseux. Le proverbe, je pense, nous le disent bien, bien souvent. Donc plusieurs versets nous montrent pour nous aujourd'hui clairement cela, qu'aujourd'hui encore Dieu veut que nous travaillions. Il nous a rachetés, la Bible dit, pour que nous puissions travailler. Éphésiens nous dit, 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ, ça parle du salut, créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu préparait des œuvres pour que ses enfants rachetés puissent les pratiquer. Jésus disait dans Jean chapitre 6, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Donc il y a un travail à faire, et qui est dans le domaine des choses spirituelles qui concernent la vie éternelle. Philippiens chapitre 2, verset 12, nous lisons, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Voici un domaine dans lequel l'enfant de Dieu doit travailler et dans lequel il ne doit pas se reposer. Travailler à sa sanctification, travailler à son salut. On n'est pas sauvé pour rester devant la télé. Non, 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 non. On est sauvé pour travailler à notre salut. marcher de progrès, en comptant sur le Seigneur. C'est lui qui on l'a dit dimanche, qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais la Bible dit, c'est un impératif, travaillez à votre salut. De même que le peuple a été sorti de la captivité pour construire la maison de Dieu, les chrétiens sont sortis, les hommes sont sortis du péché, sauvés, deviennent des chrétiens pour œuvrer à l'édification du corps de Christ. D'accord? Et nous devons travailler à cela. Et l'apôtre Paul, pour terminer avec cette partie, disait, ainsi mes frères bien-aimés, 1 Corinthiens 15, vous connaissez bien ce verset, soyez fermes, inébranlables, travaillant, non seulement travaillant, mais travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc ce qui doit, bien sûr il faut manger, bien sûr il faut habiter quelque part, bien sûr il faut un moyen de locomotion pour se déplacer, mais ces choses ne doivent pas être des priorités dans notre vie. La priorité pour le chrétien, c'est de travailler de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Sans croire, je pense que le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien, il a les moyens de nous secouer, de souffler, toujours, aujourd'hui encore, sur des choses. Et c'est un avertissement aussi pour chacun d'entre nous. Donc Dieu veut un peuple qui travaille, et Dieu veut un peuple, je termine avec cela, qui fasse sa joie. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Et j'en aurai de la joie. Montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie. Ce n'est pas la maison en tant que pierre sur pierre, hein, l'édifice de pierre qui donne à Dieu de la joie. C'est le fait que le peuple soit un peuple obéissant, qui travaille à l'œuvre de Dieu. De voir ses enfants qui travaillent à son œuvre, cela procure de la joie à Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Donc Samuel nous le disait, il dit, Dieu ne trouve pas du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc c'est pas tant l'édifice qu'il construisait. Dieu n'est pas content de voir l'édifice. Cet édifice-là était pour manifester la gloire de Dieu, sa présence parmi son peuple. Mais ce qui donne de la joie, c'est que ses enfants travaillent à cette œuvre-là. Et cela constitue la joie de Dieu. Quand les hommes avaient dit à Jésus, « Oh, regarde ce temple !» Jésus avait dit quoi? Il avait dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui reste de ce temple. Ce n'est pas l'édifice architectural qui procure de la joie à Dieu. C'est un cœur obéissant d'enfant qui travaille. Et l'obéissance, c'est vraiment le véritable sacrifice dans lequel le Seigneur Dieu prend plaisir. Et puis, dernièrement, on voit ici, il dit aussi, et je serai glorifié. Donc, un peuple qui travaille, un peuple qui procure à Dieu de la joie, et un peuple qui glorifie Dieu. Je serai glorifié. Dieu trouve du plaisir dans ceux qui le glorifient. Et l'obéissance à sa parole glorifie Dieu, parce qu'elle manifeste la confiance en Dieu. Si le peuple avait continué à construire malgré les adversités, ça voudrait dire qu'il fait confiance à Dieu, qu'il sait que Dieu est souverain, que malgré l'opposition, il va les protéger. Et que malgré les difficultés, il sera là. Il fournira les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'il a commandé. Donc c'est une attitude dans laquelle on fait confiance à Dieu. Et quand on fait confiance à Dieu, ça le glorifie. Il dit, ce qui glorifie Dieu, c'est un cœur obéissant et qui lui fait confiance. Et il y a un verset qui dit, ce n'est pas dans la force du cheval que l'Éternel trouve sa joie, je crois, mais c'est dans ceux qui espèrent en lui. Dans le psaume 47, je pense, quelque chose comme ça. Il dit, donc ce n'est pas dans ces choses-là que Dieu trouve son plaisir, mais c'est dans le cœur qui est, dans celui qui espère en lui, celui qui place sa confiance en lui. Et donc Dieu est glorifié par ce moyen-là. Le découragement du peuple l'a poussé à porter les regards sur les menaces de l'ennemi plutôt que sur Dieu qui avait donné le commandement bâtissez. Donc ce sont des pierres, bien sûr, qu'il fallait assembler pour bâtir, mais en le faisant, on obéissait à Dieu et on faisait confiance à Dieu. Et donc que le Seigneur nous aide et nous aide à marcher avec lui, à considérer ce qu'il demande au peuple ici de considérer, considérer notre situation, considérer les raisons pour lesquelles parfois nous sommes dans certaines situations, considérer la souveraineté de Dieu sur toutes choses et considérer aussi la volonté de Dieu pour notre vie. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Donc considérons, chers frères et sœurs, attentivement nos voies. C'est ce que le Seigneur nous encourage et nous exhorte à faire chaque jour de notre vie. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole et qui nous secoue, qui nous révèle ta grandeur, ta volonté pour nous. Et donne-nous de ne pas réfléchir comme le monde réfléchit, mais de réfléchir selon que tu nous l'indiques ici. Tu as voulu que ce peuple qui s'était éloigné de toi et qui vivait dans le confort de ses demeures lambrissées se réveille. Et pour le réveiller, Seigneur, tu lui as fait prendre conscience de sa situation, de la situation économique même du pays, de leur propre insatisfaction dans leur cœur. Et tu leur as montré combien cela était lié à leur désobéissance. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies, considérer nos propres voies, Seigneur, et à nous éloigner de ce qui ne te glorifie pas. Donne-nous d'être des enfants obéissants pour la gloire de ton nom. Amen.